quelques éléments de méthode pour comparer les niveaux de vie entre générations, on peut avoir une approche transversale, par exemple, qui va consister à comparer le niveau de vie des générations à une même date. Par exemple, on va se placer en 2015, et puis on va regarder quel est le niveau de vie de la génération qui est née en 45 et qui a eu 70 ans en 2015 par rapport à celle qui est née en 75 et qui, en 2015, a 40 ans. Donc là, on se place une date donnée et puis on compare des générations qui ont des âges différents à cette date. Et puis, on peut avoir une autre approche, qui est une approche qu'on appelle longitudinale, où on va comparer le niveau de vie des générations au même âge, mais à des dates différentes. Par exemple, à 40 ans, quel est le niveau de vie de la génération qui est née en 45, et donc qui a 40 ans en 1985, par rapport à celle qui est née en 75 et qui a 40 ans en 2015. Alors, si on a l'approche transversale, on se place ici en 2015. Donc, sur ce graphique, sur l'axe horizontal, vous avez les différents âges de la vie. Donc, des gens qui ont 25 ans en 2015 jusqu'aux gens qui ont 80 ans en 2015. Et puis, en ordonnée, vous avez le niveau de vie moyen qui est exprimé en euros par mois. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la génération 75, qui a à peu près 40 ans en 2015, si on la compare à la génération 45 qui, elle a 70 ans en 2015, eh bien, on voit qu'il y a un écart d'environ, on est à peu près 1 900 euros par mois pour la génération 75, on est à peu près à 2 200 euros pour la génération 45. Et donc, on voit que ben, les vieux, en gros, ceux qui ont 70 ans, ils ont un niveau de vie moyen qui est supérieur aux jeunes qui ont 40 ans en 75. Donc ça, c'est l'approche transversale. Après, on peut avoir une comparaison longitudinale, et là, on va se placer à deux dates différentes. En 85, c'est la courbe orange. En 2015, c'est la courbe bleue. Et qu'est-ce qu'on compare? Eh bien, on compare, hein, les cadras de la génération 75 aux cadras de la génération 45. Les cadras de la génération 45, ils ont un niveau de vie d'environ 1 600 euros. Les cadras de la génération 75, ils ont un niveau de vie environ de 1 900 euros. Et donc, on voit que les cadras de la génération 75, ils ont un niveau de vie supérieur aux cadras de la génération 45. Alors, après, on peut cumuler les deux et voir qu'on a à la fois un écart transversal et un écart longitudinal. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'ampleur relative de l'écart transversal par rapport à l'écart longitudinal? Et ce qu'on va voir, c'est que l'ampleur relative de cet écart transversal par rapport à l'écart longitudinal, il va dépendre de la déformation du profil de niveau de vie selon l'âge. Alors, en gros, on peut se dire, imaginons que le profil par âge, il demeure à peu près constant pour toutes les générations, cette espèce de forme de courbe en cloche qui, avec une pente assez forte jusqu'à peu près l'âge de départ à la retraite, et puis ensuite une légère décroissance une fois qu'on a passé la retraite. Ben, si ce profil par âge demeure constant, eh bien en fait, il n'y a pas a priori de problème d'inégalité entre les générations. Les jeunes sont relativement pauvres, en tout cas, ont un niveau de vie relativement modeste par rapport aux vieux, mais de génération en génération, tout le monde, quel que soit son âge, va avoir une progression de son niveau de vie. En revanche, si le profil par âge se déforme, à ce moment-là, eh bien, il peut se produire qu'il y aura des inégalités entre les générations. Par exemple, sur le graphique de gauche, on a pour une génération à une date donnée, ici, on a un profil par âge qui va être assez fortement décroissant. Et donc, on va avoir pour cette première date des vieux qui seront relativement défavorisés. Et puis, pour une date ultérieure, on aurait une déformation du profil par âge avec des gens qui, quel que soit leur âge, seraient favorisés par rapport à la génération précédente. Et donc, on aurait un déplacement d'un profil de niveau de vie selon l'âge qui avantagerait une génération par rapport à une autre. Par opposition à ce qui se passe sur le cadran de droite, où on va avoir un profil, une déformation du profil selon l'âge entre deux dates, qui va faire que, eh bien, les vieux vont être défavorisés, et donc on va avoir globalement une génération qui va être plutôt défavorisée tout au long de son cycle de vie. Alors, ce qu'on sait, c'est que globalement, jusqu'au début des années 70, la situation en France était une situation où, en gros, en moyenne, les seniors étaient pauvres. Et la vraie question jusqu'en 70, c'était la pauvreté des seniors. Et donc, ce qui s'est passé dans ces années, à partir des années 70, il y a eu un certain nombre de politiques qui ont été adoptées, qui ont visé à accroître le niveau de vie des seniors. Et ce qu'on a pu constater au cours des deux décennies 70 jusqu'au début des années 80, où on a eu, vous voyez, un accroissement du niveau de vie moyen de l'ensemble des générations aux différents âges, avec un accroissement qui était d'autant plus important que il concernait des personnes d'âge élevé. Et donc, on a eu une croissance pour toutes les générations, mais effectivement, les seniors ont profité plus que les jeunes de cet accroissement du niveau de vie. Ensuite, il y a une bascule à partir du début des années 80 où on voit, eh bien, c'est les fameuses générations du baby-boom qui arrivent aux âges les plus élevés. Et là, on voit que ce sont elles, et les générations un peu antérieures, qui commencent à profiter de, finalement, la montée en charge des mesures qui ont été adoptées pour favoriser le niveau de vie des seniors. Et donc, on voit que entre 1979 et 1997, on a une progression du niveau de vie des personnes âgées qui est de plus 25%, alors que la progression du niveau de vie des jeunes n'est que de 6%. Ça va se poursuivre jusqu'en 2010, à peu près jusqu'à la crise, où on a toujours un accroissement du niveau de vie des personnes âgées, un accroissement aussi du niveau de vie des jeunes. Et puis vient la crise qui va impacter, alors on le voit pas très très bien parce qu'on a ici un écart juste sur 5 ans, alors que dans les diapositives précédentes, on avait des écarts qui portaient sur un nombre d'années beaucoup plus important. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la crise va toucher à peu près de la même manière les actifs, un peu plus que les seniors, où en fait le niveau de vie n'a pas changé quasiment entre 2010 et 2015. Donc ça, c'est pour le passé, donc un petit bilan d'étape sur ces questions-là. Hein. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'en principe, depuis plusieurs décennies, chaque retraité va conserver un niveau de vie à peu près constant tout au long de sa retraite. Pourquoi? Ben parce qu'en France, les pensions sont revalorisées sur l'évolution des prix. Donc, globalement, on a un niveau de vie constant parce que les pensions sont indexées sur les prix, puis après, il y a les revenus du patrimoine qui, eux, ont une indexation qui est éventuellement un peu différente. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que le montant des pensions va progresser au fil des générations. Donc, il va y avoir une évaluation permanente du niveau de vie moyen des retraités. Ce qu'on appelle un effet Noria, c'est que les nouveaux retraités qui vont arriver à la retraite ont globalement bénéficié de progrès de productivité quand ils étaient jeunes, donc ont eu des meilleurs salaires que les générations précédentes. Et donc, tout ça va se cristalliser dans la pension qu'ils vont avoir. Et donc, on va avoir un montant des pensions qui progresse au fil des générations. Alors, ce qui se passe juste en ce moment, et je ne parle pas du Covid, mais en gros jusqu'à la fin 2019, c'est que les évolutions tendent à devenir un peu plus complexes parce que, eh bien, on observe des phénomènes qui sont un peu nouveaux. Par exemple, que pour un certain nombre de retraités, on n'a pas une revalorisation des pensions sur les prix, mais notamment pour les retraités les plus riches, ceux qui ont les pensions les plus élevées, on a des revalorisations qui sont inférieures au prix. Les retraités aussi ont eu récemment une augmentation des prélèvements sociaux, de CSG notamment. Et donc, de manière aussi un tout petit peu plus récente, le montant des pensions ne progresse plus au fil des générations parce que l'effet Norien qu'on observait de manière assez intense jusqu'au milieu des années 2010, maintenant on l'observe de moins en moins. Il arrive maintenant à la retraite des générations qui ont eu des profils de carrière et de salaire qui sont moins favorables. Et donc, on commence à voir des baisses de taux de remplacement. Alors, quelles sont les perspectives? Puisque la question, c'est est-ce qu'on va vers un conflit de génération dans le futur? Donc, au corps, on s'appuie sur un modèle que Didier Blanchet connaît bien, qui est le modèle Destiny. On se cale sur un scénario de progrès de productivité dans le futur de 1,3% par an de progrès de productivité du travail. Ça, on pourra revenir là-dessus dans la discussion. Et sur des hypothèses de comportement de départ au taux plein. C'est-à-dire que les gens attendent d'avoir le taux plein pour leur pension, pour partir à la retraite. Et ce que je vous montre comme scénario, c'est des choses qui ont été projetées avant la crise du Covid. Alors, je vous épargne la période qui va de 2020 à 2030. En gros, ce qu'on va observer, c'est que on avait des choses qui commençaient à devenir défavorables pour les retraités et on va avoir de nouveau quelque chose qui va être défavorable pour les retraités. Et ça tient à une des caractéristiques de notre système de retraite, qui est que les pensions sont indexées sur les prix, alors que les salaires des actifs sont indexés sur leur progrès de productivité du travail. Dit autrement, c'est que quand les actifs travaillent pour produire de la richesse, cette richesse va être partagée entre les actifs et les retraités, mais les retraités ne vont pas bénéficier des progrès de productivité puisque leur pension n'augmente pas avec les progrès de productivité, mais simplement avec l'inflation. Alors, on peut essayer, et c'est ce qu'on a fait au SG-Corps, hein, de faire un bilan par génération. Alors, on utilise pour ça un indicateur qui est le taux de rendement interne d'un système de retraite par répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à voir, quand on cotise 1 euro, qu'est-ce qu'on obtient comme pension quand on va partir à la retraite? Et le taux de rendement interne, en gros, c'est ce qui va rendre équivalent financièrement la masse de ce qu'on aura cotisé pendant qu'on était actif et la masse de ce qu'on va percevoir en moyenne, compte tenu de l'espérance de vie, quand on sera retraité. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit bien sûr que les générations les plus anciennes avaient un taux de rendement interne de l'opération retraite qui était très élevé. Évidemment, ils ont cotisé très peu et ont bénéficié d'une retraite. Que ce taux de rendement interne va baisser au fil des générations, en gros, jusque aux années 70, au milieu des années 70. Et à partir des milieux des années 70, de nouveau, eh bien, si les caractéristiques du système de retraite ne changent pas, on va avoir de nouveau un taux de rendement interne qui va passer en moyenne au-dessus de 2%. Tout dépend des progrès de productivité. Plus les progrès de productivité sont importants, plus on aura de rendement. Et ça parce que, eh bien, on a un allongement de l'espérance de vie, essentiellement.